Merci à tout le monde d'être là, même en avance, c'est formidable. Je vois qu'il y a quelques imposteurs dans la salle. Si vous êtes venus, c'est que le titre vous a parlé. Ou il y a des touristes? Ouais, il y a des imposteurs, des vrais? Juste pour les repérer. Main levée. Ah, mais non, l'imposteur, il dit pas qu'il est imposteur. Ça, il est malin. Je comprends qu'il n'y ait pas eu de main levée, sinon je vous aurais dit, allez voir autre chose, c'est pas grave, vous l'assumez, donc il n'y a pas besoin d'être là. Déjà, moi, je suis très heureuse de venir vous présenter cette conf sur le syndrome de l'imposteur, parce que ben, c'est une conf... ce matin, David, tu parlais de conf thérapeutique. Donc forcément, quand on parle syndrome de l'imposteur, qu'on ose lever la main et qu'on l'assume, c'est qu'il y a eu un petit peu de chemin de fait et de venir le présenter encore plus. Moi, c'est déjà merci, parce que c'est un kiff personnel et ça me fait du bien. J'espère pour vous que ça le fera aussi, comme ça, il n'y aura pas que moi qui aurai du plaisir. Merci au Printemps Agile en tout cas de me donner cette possibilité de vous présenter cette conf en début d'après-midi, là pendant la digestion, c'est bien, c'est le meilleur créneau. Le premier qui ferme les yeux, je le vois. Merci aux partenaires de ce Printemps Agile. Je reprends tes mots encore, David, ce matin, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça qui sont gratuits. Donc merci de permettre le fait que ce soit ouvert à tous et toutes, à toutes. Et puis donc au reste des partenaires. Moi je suis Joanne.
Bonjour.
Bonjour Joanne. Merci. Ça fait 5 ans que je suis dans l'informatique. J'ai eu ma petite médaille des 5 ans. Moi je suis coach. Alors avant j'ai été product owner, scrum master, product master, scrum owner. J'ai à peu près tout fait tout en faisant des maquettes sur Balsamiq. Enfin voilà, ça parle peut-être à certains qui font un petit peu tout. Et puis formatrice, je donne des formations sur l'agilité et aussi sur l'intelligence collective. Parce que ouais, on est intelligent en collectif. Il y a des gens qui donnent des super confs là-dessus, donc j'ai pas besoin de le faire. Je viens de Rennes, de Bretagne. Je vous laisse le Mont-Saint-Michel, comme ça. Sinon après les gens, ils partent, c'est chiant. Il est chez vous.
Bonjour.
Déjà, c'est quoi l'imposteur? Parce que syndrome de l'imposteur, c'est facile de parler du syndrome de l'imposteur, mais on va commencer start with why, hein, en bon agiliste. Je ne vais pas beaucoup parler d'agilité normalement. Je vais essayer. Mais n'empêche que j'aime bien appliquer les principes, mes principes de coach agile dans mes confs. Et d'ailleurs, ça m'amène à se dire pourquoi est-ce que je fais cette conf sur le syndrome de l'imposteur en coach agile? Parce que j'en rencontre plein. J'en rencontre beaucoup. Et quand on coach une équipe, on ne coach pas qu'une équipe, on coach les humains qui sont dans l'équipe, on coach aussi les managers de ces équipes-là. Et on se rend compte que très souvent, ce sujet du syndrome de l'imposteur revient. On se retrouve face à des gens qui se posent beaucoup de questions sur eux, ou peut-être pas assez, et ce serait bien qu'ils s'en posent. On les aide pour ça en tant que coach, mais c'est un sujet qui revient tellement que je me dis il faut en parler, il faut le poser. Il n'y a pas que mon vécu à moi, mais il y a aussi tous ces gens que je croise. Vous aujourd'hui, et puis j'ai pris un peu de data, après je suis allée en chercher sur ce syndrome de l'imposteur, je vais vous le présenter. Moi, l'imposteur, je le vois un petit peu comme ça. Alors, référence culturelle, dessin animé, merci. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille. Kronk, qui est un génie. Hein. Attention, Kronk est un génie, on ne le dit pas assez. Kronk, il a cet ange et ce démon sur ses épaules. Et moi, je vois l'imposteur un petit peu comme ce petit démon qui vient tout le temps nous troller, nous dire des choses. Parce que l'imposteur, il est dans votre tête, hein, vous le créez comme un grand. Le cerveau a une capacité assez exceptionnelle de s'auto-troller. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc l'imposteur, c'est vous avec vous-même, tout simplement. Je suis en train de me dire que je n'ai pas lancé mon chrono. Ça pourrait être utile à un moment donné. Je vais le lancer. Tac. Et puis, je trouve que l'imposteur, il est là de toute façon, breaking news, il existe, il est là, c'est comme l'ego, il est là pour vous préserver. Donc il continuera à être là, c'est normal. Maintenant, c'est comment je vis avec. Moi, le but de cette conf aujourd'hui, c'est que normalement, vous ressortiez en vous disant, ok, il y a plus ou moins de taf et tout, mais en tout cas, je vais vivre avec, et de toute façon, j'ai pas vraiment le choix, mais on peut s'entendre. Mais l'imposteur, quand il est un peu fort, le problème, c'est qu'il fait de l'ombre à notre intuition. parce qu'on va se rajouter beaucoup de bruit. Et au final, notre intuition, là, cette petite voix au fond, qui, elle a quand même souvent raison. Hein, elle est pas très déconnante, cette intuition. Et ben, la pauvre, on l'entend plus. Donc l'imposteur, il se présente comment ? Je vais vous montrer des phrases. Je vous invite à lever la main si elle vous parle. Il y en a, il reste la main en l'air pendant une demi-heure, mais ça fera des courbatures demain. C'est ces petites phrases qu'on se dit comme un grand dans sa tête. C'est pas grâce à toi ce succès. C'est l'équipe qui a tout fait. Alors ça, c'est très agile en plus. Hein, ouais. Hein. Et bons agilistes, c'est jamais nous, c'est l'équipe. Si, bah si, parfois c'est nous en fait. Et puis c'est bien de se le dire et de se l'attribuer. C'est pas plus mal. Ils en savent bien plus que toi, ces gens autour de la table. Ils en savent plus que toi. Ouais, merci d'être honnête. T'as juste eu de la chance sur ce coup, sur ce truc que t'as gagné, que t'as réussi. C'est juste de la chance que t'as eu là, hein, parce que ça se reproduira pas. Hein. T'as aucun mérite. C'était super facile, c'est juste qu'ils l'ont pas vu. Pourquoi ils ont pas vu que c'était si simple ? Moi, j'ai réussi à le faire et les autres, ils... je sais pas, mais c'était simple. Et là, je me pose beaucoup la question en ce moment même, à l'instant T. Quand est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne maîtrisent pas ce que je dis ? Attends, en réunion, en plus, on dit qu'on a amené notre expert avec nous. Donc, en plus, on t'a mis l'étiquette d'expert. Donc là, t'es serein, t'es détendu. Toi, ça fait 2 semaines que t'as pris ton poste de consultant. Ça arrive jamais. Hein. Dans une réalité parallèle. Et puis tu te mets à parler et dans ta tête, tu te dis, mais je leur dis que des conneries. Alors que... Il y en a un. Il y a des commerciaux dans la salle. Cadeau. Il y en a un et je l'aime bien. Non, tu dis pas que des conneries en fait. On verra plus tard. Tu dis un bout de savoir qu'ils connaissent pas forcément et t'as raison de le dire. Et puis, t'es pas assez pour eux, tu n'as pas ta place ici. L'imposteur, il ne se sent pas à sa place. Il se sent à côté. Il se dit, ouais, tu te sens un peu à côté. C'est dommage. Parce que ta place, on a tous notre place, on a tous notre rôle. Et très souvent, quand on a un imposteur, quand on se sent imposteur, on se dit, mais j'appartiens pas à ça. Le succès, c'est pas moi qui ai contribué, c'est pas moi qui sais ça. C'est moi, je suis juste là, mais pas vraiment là. Je serais pas là, ce serait pareil. Oui, hein, top. Il y a des doigts qui font un petit peu quand même. Et donc avec cet imposteur, il est là, il existe, il est en nous. Encore une fois, c'est un truc qu'on se crée nous-mêmes comme un grand. Hein. Et donc, bah, on va avoir une relation. Et sur cette relation, moi, j'aime pas partir de nulle part. Quand j'ai une idée de conf, je me dis, tiens, ça a l'air cool. Je vais quand même aller un petit peu tester le concept de me dire, est-ce que ça va intéresser 2-3 personnes. Bon. Je vois que oui, apparemment. Ou alors les autres conf ont l'air vraiment bien pourris, mais c'est pas vrai. Parce que j'ai des collègues qu'on donne. Et donc, j'ai fait un sondage que j'ai envoyé auprès de personnes en leur disant, ben voilà, en question ouverte, c'est quoi toi, cet imposteur, ta relation avec cet imposteur. Donc, j'en ai tiré une échelle de verbes, c'est pas les miens, c'est des verbes que j'ai ressortis des questions ouvertes que je leur ai posées. Et donc, d'abord, je leur ai donné cette échelle de Clance, qui est une psychologue dans les années 70 qui a sorti le concept du phénomène de l'imposteur, qu'on a passé en syndrome de l'imposteur, parce que ça fait vachement plus scientifique. Dans cette échelle de Clance que je leur ai envoyée, il y avait des phrases où ils devaient répondre s'ils se sentaient plus ou moins imposteurs. Par exemple, j'ai souvent réussi un test ou à accomplir une tâche alors que j'avais peur de ne pas y arriver avant de commencer. Est-ce que c'est pas du tout vrai, plus ou moins vrai, très vrai ? Et ça va nous sortir un score, une échelle de mesure de 0 à 80. Et donc là, c'est que 21 personnes que j'ai interrogées. Mais il y a quand même des tendances qui ressortent pas mal. Quand on est inférieur à 40, donc à la moitié, c'est qu'on a très peu de caractéristiques de l'imposteur. Là, on a 5%. Entre 41 et 60, c'est une notion d'expérience modérée. Donc, on a conscience, on a un imposteur, mais ça se passe plutôt bien, on s'entend bien. Ensuite, on a quand même 40% où c'est pas super agréable à vivre, en fait, cet imposteur. Et puis, on a 7% pour qui c'est très intense. Et vraiment, c'est une difficulté au quotidien. C'est des gens qui ont très peu confiance en eux, qui sont tout le temps à avoir ce petit vélo, cette petite voix là qui mouline dans la tête, à se rabaisser en permanence. C'est très, très difficile à vivre. Conclusion, en tout cas, c'est qu'on a tous, à un certain degré, cet imposteur. Donc c'est là que je vais vous présenter cette échelle de verbes que je ressors sur cette relation qu'on a. Il y a des gens, ils veulent tout simplement lui démonter sa gueule à l'imposteur. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Je veux lui démonter la gueule. Ok. C'est un petit peu violent. Hein, on peut placer le mot. Ensuite, on a des gens qui vont vouloir plus le contrer, le déconstruire, découvrir ce qui cloche. Parce qu'avoir un imposteur, un syndrome d'imposteur, c'est quelque chose qui cloche pour eux. Ensuite, on a ceux qui veulent juste le minimiser. Voilà, je voudrais dédramatiser, je voudrais que ça me pourrisse un peu moins la vie, je voudrais le relativiser. Et puis, il y a ceux qui sont, moi, je veux juste l'accepter, je veux cohabiter avec, j'ai même envie d'en rire. L'imposteur, il a beaucoup de mal à rire de lui-même, parce qu'il va être très dur avec lui-même. Et donc, il va savoir rire de ses propres situations d'imposteur. On est sur un niveau un peu Jedi, là, qui est pas évident. Personnellement, j'ai encore un peu du mal à l'atteindre. Mais quand j'observe les fois où j'arrive à en rire, j'ai mon petit moment de hey, t'as pas fait ça pour rien. Tu te retournes, tu vois tout l'escalier que t'as monté, t'as fait wouh. Bon, tu vois encore les marchands qui restent, mais c'est bien de se retourner parfois. Donc on a tous un degré de relation. Je sais pas vous à quel moment vous êtes dans cette échelle. Il y a peut-être un verbe qui vous parle plus qu'un autre. Cette conf, elle est pour tout le monde, hein. Peu importe le degré d'imposture. En tout cas, quand on est coach, c'est vrai que accompagner des personnes qui sont dans cette zone rouge, c'est on se rend compte que à quel point ça peut saboter une équipe d'être dans un imposteur aussi fort avec soi-même. Je vais vous montrer après un exemple de pourquoi. Où est-ce qu'il vient de cet imposteur ? On n'est pas, on s'est pas réveillé ce matin à se dire toutes ces petites phrases là. Il vient bien de quelque part. Bon bah comme tout, ça vient un peu de la base. Hein. C'est quelque chose, on s'est construit là-dessus. Il y a une part qui va venir de l'enfance, avec des petites phrases. C'est que des petites phrases comme ça, répétées. Par exemple, les pleurs c'est pour les filles. Carvin quand même, qu'est-ce que tu pleures ? T'es un bonhomme ? T'es un bonhomme Carvin ? Tu vas pas pleurer ? Je l'ai fait pleurer du coup. Bah on dit ça aux petits garçons. Bah comment ils font plus tard quand ils grandissent ? Bah ils vont pas montrer qu'ils sont tristes. Ils vont les garder en eux. Et puis dans leur tête ils vont se dire tu vas pas pleurer quand même. Bah là ça peut créer un imposteur. On est dans des imposteurs. Il y a des bouquins très bien faits sur les imposteurs de genre. Bah mine de rien quand on est éduqué à être un bonhomme, bah c'est pas évident plus tard d'avoir ces sentiments. Et donc dans la tête on va s'auto-persuader de oh, tu vas pas pleurer quand même. Et donc ça peut créer des grosses dissonances en soi, des gros désalignements. Aide maman. Ça, c'est les petites filles. Hein. Aide maman, sois gentille, aide maman. Bon, bah, plus tard, on va être gentil, on va aider, et puis on va pas s'écouter. Donc, on va pas forcément trouver sa place, parce qu'il faut aider. Aider, ça veut dire que c'est pour l'autre. Donc, c'est des petites phrases comme ça. Parce que c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle ? Non, aucun ? Il y en a trois ? Quatre ? Ah bah merci. Non mais je comprends, c'est dur à 14h30 de lever la main. C'est ah, le sport. Vous savez la phase des pourquoi entre 3 ans, c'est quoi ça ? Et puis 5 ans, pourquoi ? Ouais. T'es dedans toi. Et puis un jour tu le sors parce que c'est comme ça. Oh, c'est bien après il se tait. Oh, oh c'est génial. Alors du coup on va tout le temps le dire. Et comme ça, l'enfant, il arrêtera de poser des questions. Il va nous foutre la paix. Et plus tard, il n'osera pas poser des questions. Il pensera que ces questions, elles sont cons, elles sont bêtes, et il n'en posera pas. Alors qu'à l'intérieur, il se passera plein de trucs, mais il ne va pas le dire. Bah ça crée des beaux imposteurs, ça. Bah non, mais je ne vais pas parler, parce que de toute façon, on ne veut pas m'expliquer. Donc je ne vais pas poser de questions. Ça, c'est l'enfance. Alors là, les parents, ils se disent, tiens, je lui ai encore dit hier soir. Merde. Ah, mon enfant, je te paierai de la thérapie plus tard. J'ai déjà commencé à cotiser pour le mien. L'éducation, c'est aussi bien à l'école qu'en dehors. Voilà, nos enfants, on les a pas 24 avec nous, hein, donc ils ne seront pas parfaits à cause de l'extérieur, pas de nous. Mais en tout cas, ils vont dans des environnements où on maîtrise pas les messages de cet environnement, et donc bah il y a ou qu'on peut dire nous aussi, hein, en tout cas dans cette éducation, bah l'enfant à l'école, on va lui poser. On va lui poser une question, on va l'interroger. Parce qu'à l'école, on interroge. À l'école, on aime bien poser des questions dont on connaît déjà la réponse. Donc, c'est pas de l'éducation, c'est de l'interrogation. Et donc, l'enfant, il va tenter, déglingue, une réponse un peu disruptive, un peu divergente. Alors oui, c'est bien ce que tu me dis, mais non, parce qu'en fait, 1515, c'était vraiment une grosse victoire. C'était la seule, hein. Le gars, il a gagné une guerre contre 200 pélos. On nous apprend ça à l'école parce qu'il a perdu toutes les autres. Donc si l'enfant, il ose dire « Mais moi, je sais bien qu'en 1515, en fait, c'était juste une toute petite guerre. » Ben non, parce que dans le manuel, c'est pas écrit ça. Donc oui, mais non. Non, non. Donc en fait, on nous re-rentre. On essaye d'avoir cette pensée un peu divergente, mais non, on nous re-rentre exactement dans ce qu'il faut penser, ce que c'est écrit dans le livre. Donc ça aide pas plus tard. à être un peu disruptif. Je l'ai placé deux fois quand même. Ça n'aide pas à penser en dehors, outside the box, comme on dit. Ça n'aide pas, ça. Parce qu'il faut rentrer dans la bonne réponse du bon livre. Fais un effort. Pour ta sœur, fais un effort. Toujours faire un effort. Mais c'est déjà bien en fait ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'il devrait faire un effort en plus? C'est bien 14 sur 20. On s'en fout du 18. Enfin, c'est ce système de notation et tout qui nous crée des beaux imposteurs plus tard qui vont se dire « je dois toujours faire plus en fait ». Donc ce que je fais là, c'est pas assez. Ça, après, on va voir que ça nous fait des beaux profils. C'est pas très féminin, ça, comme sport, le foot. Pourquoi tu fais du foot? Et puis les jeux vidéo, c'est pas très féminin, ça. Et puis t'écoutes du métal, c'est pas très féminin, ça. Moi, j'ai eu un bel imposteur là-dessus quand j'étais ado. J'avais le trio. Eh ben, c'est pareil, si on est dans l'imposteur de genre, ben non, une femme, ça peut pas être en colère. Ça peut pas être très intelligent, quand même, surtout que par rapport à un bonhomme. Je suis désolée, mais 2024, ça existe encore un petit peu. Hein. Eh ben, on va nous créer des imposteurs. Voilà, ben, les femmes dans l'informatique, notamment, on n'est pas beaucoup, mais parce qu'il faut un peu se battre pour ouvrir sa bouche, parce qu'on n'est pas forcément éduqué à l'ouvrir et à amener des connaissances. Donc ça nous fait des beaux imposteurs. Et puis, dans la vie professionnelle, les experts. Le nouveau développeur qui arrive dans l'équipe, il découvre. Et puis, il y a l'expert qui arrive, le dev senior qui fait « Tu vois, ça, c'est super simple. » Bah bon courage mon gars, parce qu'on vient de te dire que c'est simple. Donc si tu trouves ça dur, si tu as des questions, bah tu vas les garder pour toi, parce qu'on t'a dit que c'était simple. Donc non, ça rassure pas les experts. Il y en a qui se disent, putain mais je le dis ça, que c'est simple. Ça rassure pas, hein. Pas toujours, au contraire. Ça peut créer de la personne en face va pas oser. Je te remercie par avance de ta compréhension en signature de mail quand c'est ton manager. Bah, je parle choix d'être d'accord. Hein. C'est gentil, il me remercie d'avance. Donc, pareil, bah, ça nous empêche de pouvoir proposer autre chose, puisqu'on nous remercie d'avance de comprendre. Bon, bah, déjà, tu dois comprendre, et puis en plus, tu n'as pas intérêt à comprendre autre chose. C'est filmé, donc je vais épeler, comme pour mon fils qui ne sait pas encore écrire, les PUTAIN de croissant quand tu as pété la prod. C'est terrible! Pensez à ce jeune développeur qui, pour une fois, ose pousser en prod, en bonne agiliste, de se dire « je vais au bout du process, je suis responsable, je me responsabilise, je pousse en prod et j'ai cassé quelque chose parce que oui, je ne suis pas parfait et qu'en plus, déjà, je me sens super mal et en plus, je dois amener des croissants et c'est écrit sur le tableau et le lendemain, c'est hey, « hé, croissant, hé !» Ben, c'est pas évident pour tout le monde, ça. Ça peut être super humiliant. Alors, si c'est une équipe qui se connaît bien, je dis pas... ne nous trollons pas quand on se connaît et tout, mais en fonction de l'équipe, de comment on se connaît, ça peut être super humiliant. Bah, tout ça, ça peut nous créer un imposteur. Pauvre Michel, il va mettre du temps avant de repousser en prod des trucs. Hein. Il va peut-être plus jamais le refaire, ou ça peut avoir un impact. Donc voilà, l'imposteur, il vient de plein d'endroits au fur et à mesure de notre vie. Ça nous construit. Et nous, bah, qu'est-ce qu'on fait? Quand à chaque fois qu'on se sent agressé, bah, on va se protéger. L'être humain, il se protège. Il prend son... sa petite truelle, il se fait des petits murs. Ah, oh, j'ai oublié de mettre une porte. Ah, zut, je pourrais plus en sortir. Mais voilà, on se protège, c'est normal, c'est un réflexe, c'est reptilien. Je dis des trucs positifs après. Faut pas. Ça a des impacts. Parce que souvent, moi, quand je discute avec des gens qui sont dans l'imposteur, ils disent « on s'en fout, c'est moi. C'est pas grave, j'aide les autres, ça se passe bien. Moi, on s'en fout. » Bah non, on s'en fout pas, toi. Déjà parce que, tu devrais être ta priorité, bon, on ne nous éduque pas à ça. Et deux, certes, vis dans ton mal-être, mais ça a des impacts sur l'équipe. Et ça, c'est pas possible professionnellement. Un exemple que je vais vous donner, c'est le degré d'exigence. L'échelle de l'exigence. Notre imposteur, il est là, et il voit ses collègues là-haut, parce que lui, il ne se sent pas terrible. Il se dit, ah non, mais le niveau qu'ils ont, les gars, ils en connaissent des trucs. Oh, je suis là, mais il va falloir que je les rattrape, c'est pas possible, je peux pas être autant à la traîne. Donc il se dit, mais le gap de fou, il va falloir que je rattrape ça. C'est dans sa tête, hein, encore une fois, hein, tout se passe dans sa tête. Donc il se dit, il faut que j'aille au niveau des gars, parce que sinon, je suis mal. Sinon, ça va se voir que je sais pas faire, que je suis pas bon. Sauf qu'en fait, les deux autres gars, lui, il s'est mis dans la tête qu'ils étaient tout en haut, mais eux, ils sont pépouses, ils sont là, en fait. Ils sont au milieu. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe, notre imposteur? Il va créer un rythme au-delà du rythme soutenable. Il va mettre la pression. Parce que pour lui, en fait, les gens sont tout en haut. Parce qu'il va s'imaginer que les gens sont meilleurs que lui. Donc lui, dans cette partie rouge-là, c'est là où ça peut très mal se passer. Où il va pouvoir peut-être saboter un projet en mettant plus de pression. Il faut faire mieux. Alors quand on sait un manager, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il imagine qu'on ne sera jamais au niveau. Il va mettre des objectifs inatteignables en se disant « il faut faire plus, il faut faire mieux, il faut produire ». Et en fait, il n'aura pas cette vision de la réalité que le niveau, il n'est pas aussi parfait qu'il imagine. Et donc, on peut saboter des projets comme ça, et puis on peut aussi mettre des climats de toxicité dans des équipes. Ça, je l'ai vu en tant que coach. Un manager qui a un tel degré d'exigence, un tel décalage entre la réalité d'un rythme soutenable et ce qu'il demande, les équipes, elles sont en stress. Le matin, il arrive, c'est quoi les problèmes là ? Les anneaux, il faut corriger les anneaux. Alors toi, tu es là, oui, je suis agiliste, je veux créer de la valeur. Oui, on n'avait pas priorisé ça avec la valeur métier, ça pète tout. Et donc, les gens sont stressés, ils vont être en mode production, et le climat était terrible, terrible. Et puis, on peut aussi se faire rejeter. Ah, mais c'est bon, laisse tomber, Roger, il est tout le temps là à mettre la pression, on ne l'invite pas, quoi. Il va encore tout nous pourrir la réunion, et petit à petit, on va l'isoler, on va le mettre de côté, et c'est ballot. C'est après les trucs positifs. Mais en tout cas, ce que je veux vous montrer, c'est ces impacts que... C'est toujours ce côté que j'entends, on s'en fout, ça impacte que moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça impacte toute une équipe. Donc si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour eux. Puis fais-le pour toi tant qu'à faire, mais bon, t'en es pas encore là. Il y a des typologies d'imposteurs. Ça vient d'Imposteur Magazine. Non, il n'y a pas d'études, mais en tout cas... Voilà, à regarder beaucoup de choses, à me documenter beaucoup, il ressort ces typologies, j'en ai fait un mix. En tout cas, voilà ce que je vais vous proposer, une typologie de type d'imposteur aujourd'hui. C'est le moment où ça devrait un petit peu vous parler, parce qu'on en a tous un, deux, souvent on a un peu un cocktail. Et après, je vais vous présenter des cas, des cas réels de cocktails de ces typologies. On va avoir le perfectionniste. Je ne suis jamais assez. Le perfectionniste, il se prépare beaucoup. Il se prépare, c'est un malade. Il veut donner une conf, il va lire 12 000 livres. Il veut que ce soit parfait. Mais il veut tellement que ce soit parfait que s'il manque 1%, ce ne sera pas parfait. Donc, il ne va pas le faire. Donc, il va décaler. Et en fait, le risque, c'est qu'il tombe dans un biais d'inertie. C'est qu'en fait, il ne se passe jamais rien parce que ce n'est jamais parfait. Et donc, le perfectionniste, voilà, c'est il va se mettre ses objectifs irréalistes qui lui semblent pour lui réalistes et il va être constamment dans cette frustration de c'est jamais assez, je ne suis pas assez, ce que je fais n'est pas assez. Il y en a qui se retrouvent dans le perfectionnisme, c'est dur de lever la main là-dessus. Hein. Oh, il y a du courage. Oh, joli. On a gagné en courage par rapport au début de la conf et merci pour l'avoir fait. Parce que c'est pas évident de se reconnaître perfectionniste. Le génie naturel. C'est vrai que, comme on lui disait petit à l'école, oh, il a des facilités. Oui, il y a des choses peut-être plus faciles pour lui. C'est plus facile. Il n'a pas forcément appris à apprendre des choses, parce qu'il retient vite, parce que tout ça. Donc il se dit, en fait, je dois savoir tout faire, c'est génial, j'ai des super pouvoirs. Sauf que le jour où il est en échec, ça pique. Parce qu'il ne connaît pas le génie naturel, l'échec. Et donc ça va remettre en question tout son système de valeurs. Il va devenir super dur avec lui-même parce qu'il ne sait pas faire, il n'a pas appris. Alors oui, il a de la résilience, mais c'est vraiment très très dur pour ce génie naturel. Le rapport face à l'échec peut vraiment entraîner des personnes dans des situations très difficiles parce qu'ils n'ont pas les outils. Et ils se sont tellement dit en tête qu'ils savent tout faire. Oui, je sais tout faire. Je sais tout retenir, c'est super, c'est génial. Je fais des maths de tête, c'est trop bien. Le jour où tu as un échec, c'est dur. Le super-héros. Ça, c'est le plus courant. Moi, je fais pour vous. Je vous donne. Allez, charge mentale. Vas-y, mais t'inquiète, ça tient. Ça, le boulot, la famille, ça tient. Vas-y, ça tient. Ça tient. Ça tient. C'est dur. C'est dur sur ce génie naturel. Parce qu'en fait, il fait tout pour les autres. Ça, c'est quelqu'un de généreux. Pas le génie, pardon, le super-héros. C'est quelqu'un de très généreux. Mais alors, avec lui-même, c'est dur. Il va toujours faire plus. Le super-héros, il finit pas à 17h. Hein. Le super-héros, il doit faire plus. Faire plus pour porter plus pour les autres, pour montrer qu'il existe. Parce qu'en fait, le super-héros, c'est celui qui trouve le moins sa place. Parce qu'il est vraiment là pour l'autre. Le solitaire. Le solitaire, s'il demande de l'aide, il risque de montrer qu'il est incompétent. Je vais pas demander parce que sinon on va croire que je sais pas. Et alors ? Non, il se dit pas et alors le solitaire. Le solitaire, c'est pas une question de fierté de pas demander de l'aide. Souvent on se dit oh, lui, il ne demande jamais d'aide là sur son cheval blanc là. C'est pas une question de fierté. C'est juste la peur d'être démasqué en fait. C'est une protection. Je vais mettre une distance avec l'autre. Je vais pas lui poser de questions. Comme ça, on va pas voir que je sais pas que je suis incompétent. Sauf que si tu partages pas avec les autres tes questionnements, bah forcément, tu vas encore plus habiter dans ta propre réalité d'imposteur. Donc, tu nourris la bête tranquillement. Et puis, il y a l'expert. L'expert, il doit tout savoir. L'expert, il a des certifications. Il les affiche. L'expert, il doit lire plein de choses. Il doit avoir un max de conf. L'expert, il est à fond. Il est à fond dans son domaine. Il est à fond. Il doit tout savoir. Il doit se sentir légitime. Il doit accumuler de la connaissance. Il s'arrête jamais. Il est passionné par un sujet. Il s'arrête jamais. Et alors, le jour où il se retrouve sur des choses où il ne maîtrise pas trop, oulala, c'est compliqué. Hein. Ou alors, on lui dit, on lui enlève sa légitimité. C'est très dur à vivre. Donc, voilà les typologies d'imposteurs. Vous reconnaissez un petit peu ? Il y a les petits cocktails ? Ouais, je suis un peu ça, je suis ça. Oulala, dans la famille, je suis ça. Ouais. Tu es quoi, toi, par exemple ? Toi ? Les quatre premiers, joli ! 5, c'est bingo, j'offre des lots. Hein. Toi, t'es pas expert. Ok. Et c'est normal de se retrouver. Hein. On a tous grandi dans des univers, c'est normal. Encore une fois, c'est comment est-ce que je vis avec ? Comment est-ce que j'en ris ? Là, je vais vous présenter deux cas d'imposteurs. Donc, c'est quelqu'un qui... C'est ma cousine. C'est le moment où je raconte ma life. Voilà, c'est ma cousine. Elle, c'est un combo d'experts. Donc, elle a toujours bûché comme une malade pour avoir un... Au revoir, David. J'aime bien. Je lui avais dit que je le mettrais à l'aise. Elle va bûcher comme une malade. Et en plus, c'est une super héroïne. Donc, elle bûche et elle porte, elle. C'est vraiment... C'est un combo où elle a grandi avec. Et donc, voilà, elle se retrouve à 34 ans. C'est quelqu'un de très, très humain. Elle est chef de service dans la santé. Donc, elle gère des assistantes sociales. Elle est responsable, studieuse, généreuse. Par contre, déjà, elle manque de confiance dans ses capacités cognitives parce que c'est une bûcheuse. Donc, si tu bûches pas, tu sais pas. Et pour elle, elle devait toujours travailler plus pour avoir le max de bonnes notes parce qu'on lui donnait pas beaucoup de reconnaissance petite. Et voilà, elle donne beaucoup pour exister. Et elle s'est retrouvée, donc forcément, elle s'est dit, moi je vais dans le social, dans mon profil. Et déjà, le social, avant la crise Covid, c'était pas le premier poste de dépense des budgets du gouvernement. Mais alors, après le Covid, c'était l'enfer. Elle a donné à fond pendant le Covid et puis ça allait, moi, ils avaient des fonds. Et même elle a fait un premier burn-out. Elle s'est dit, mais je peux pas lâcher le social. Si on lâche le social, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Je fais, ok, mais regarde-toi, en fait. Là, tu peux plus. Et donc, ça a été dur. Ça a été un travail de 2 ans pour elle de se dire, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Parce qu'en fait, moi, je suis dans le social. J'ai appris, j'ai fait mes études d'assistante sociale et tout. Donc ça, c'est ce que je sais. Mais si tu veux me faire changer de branche, si je veux changer de branche, comment je fais ? Parce que ça, c'est les gens, ils savent tout ça, eux. Moi, je sais que ça, ils savent tout ça, je serai jamais au niveau. Oui, mais ça, c'est ce que tu penses que les autres savent. Ouais, toi aussi, tu es un peu comme ça. En fait, la réalité, c'est pas ces bulles-là. Parce qu'en plus, pire, il y a ce que je sais et il y a ce que je pense savoir. C'est encore moins que ce que je sais. L'être humain est vraiment très, très fort. La réalité, c'est pas ça. Il y a ce que je sais et il y a ce que les autres savent. C'est-à-dire, c'est une addition de savoir, mais ils ne savent pas tout. Oui, il y a telle personne qui va savoir ceci, telle personne qui va savoir cela, ça va s'entrecouper. Mais au final, il y a des choses que toi, tu sais, qui ne savent pas. C'est pas à l'intérieur. C'est une accumulation. Et une fois qu'on se dit ça, on se dit, ah, ok, en fait, je suis pas pire qu'un autre. J'ai des savoirs que tout le monde n'a pas. Et donc, elle s'est mis un plan d'action. Déjà, elle s'est dit, en fait, si moi je change rien, il va rien se passer pour moi. Si c'est pas moi qui prends l'action de changer quelque chose, je peux continuer comme ça longtemps et continuer à me cramer. Et surtout, elle s'est observée. pendant 2 ans. C'est quoi mes déclencheurs? À quel moment j'ai besoin d'être super-héroïne? À quel moment je m'oublie pour l'autre? À quel moment j'ai l'impression de ne pas savoir assez de choses? L'observation, quand on entame une démarche personnelle, c'est la première étape. Si on ne s'observe pas, eh ben, ça va être compliqué d'avancer. Sauf que l'imposteur, se regarder dans un miroir, ce n'est pas toujours évident. Elle va écouter sa temporalité. À l'époque, oui, ça allait pas, mais ça allait pas aussi personnellement. Elle vivait un truc très dur. Elle s'est dit, non, mais là, je peux pas faire les deux. Donc, je vais attendre. Sa temporalité est super important. Quand on veut travailler sur soi, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Vous pouvez me citer. C'est citation de l'année. Est-ce que je suis prêt là à faire ou pas? C'est OK de se dire, là, je suis pas en capacité de me lancer dans une démarche. OK, c'est pas grave. Hein. Ça viendra. Elle a factualisé. Quand on est dans un syndrome de l'imposteur, comme je disais, on est tout seul dans sa tête. Ce qui est important, c'est de factualiser, c'est de prendre des faits. C'est les faits qui vont nous permettre de dire est-ce que c'est vrai ou pas. Est-ce que vraiment je suis compétent ou incompétent? Au lieu de me le dire dans ma tête, je vais aller chercher des faits, des chiffres. Je vais passer à un bilan de compétences pour me dire si c'est vrai ou pas. Je vais me sortir de ma tête. Je vais aller demander à des gens, bilan de compétences, je ne sais pas s'il y en a qui en ont fait. Il y a une étape où c'est aller demander à 5 ou 10 personnes de votre entourage de donner des adjectifs sur vous. Une fois qu'on récupère 9 personnes sur 10 qui dit qu'on est généreux, c'est compliqué de se dire qu'on ne l'est pas. Alors il y en a, ils restent. Ils n'ont rien compris. Je ne suis pas du tout généreux. Et puis surtout, j'ai surtout beaucoup, c'est d'identifier et de poser ses limites. Parce que quand on est super-héros, on n'a pas de limites. Sky is the limit. Et encore, il y en a the universe. C'est se poser. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux encaisser moi pour exister? Et c'est important de le dire aux gens, mais c'est important de se le dire aussi. C'est combien de fois, moi, en coaching, je sais pas, il y a quelques coachs dans la salle. Oui, mais qu'est-ce que tu es prêt à accepter et jusqu'où tu es prêt à dire oui aux choses, en fait? Parce qu'à un moment, il va falloir commencer à dire non. Et donc, d'identifier ses limites, c'est super important. Et puis, une fois qu'elle a fait tout ça, elle a démissionné. Et aujourd'hui, elle est chef de projet en informatique. Elle a pris quelques doliprane sur ses premiers mois. Quand même passé du social à l'informatique sur la connaissance. Et aujourd'hui, elle me parle de Java, d'agilité, elle me fait rire. C'est génial. Et voilà, elle s'est lancée, elle a osé. En faisant tout ce travail sur son imposteur. Parce que vraiment, il y a 3 ans, elle se sentait incapable. Quand je lui ai dit, mais t'as toutes les compétences pour être chef de projet. Tu sais piloter des budgets, chef de projet, je ne parle pas d'agilité. Tu sais, c'est pareil, un Scrum Master, un chef de projet. Non, il y a des gens qui font des confs là-dessus, allez les voir. C'est juste qu'elle, technique, tout ça, ça fait peur. C'est des gens qui écrivent en blanc avec des crocodiles comme ça sur fond noir, je ne sais pas faire ça. Si en fait, tu avais le corps même des compétences qu'il fallait. Donc elle l'a fait. Deuxième cas, moi-même, c'est le moment que j'adore. Alors moi, dans mon auto-évaluation, comme vous l'avez fait tout à l'heure quand je vous ai présenté les cas, pour moi, je me dis je suis un mix entre ce côté un peu génie naturel. C'est vrai que c'était assez facile quand j'étais jeune, l'école, tant mieux pour moi. Et en même temps, ne pas apprendre à apprendre, c'est compliqué quand on grandit. Et ce côté solitaire, de ne pas aller demander de l'aide, de ne pas demander. Rambo. Donc ça, c'est moi il y a 5 ans. J'aimais la musique et je sais plus, parce que je savais plus. Je savais plus ce que j'aimais, je savais plus beaucoup de choses sur moi en fait. J'étais un peu perdue. J'étais auto-entrepreneur, c'est pas corrélé. Hein. L'auto-entrepreneur n'est pas toujours perdu. On m'a dit que j'étais empathique, solaire et perspicace, incapable de poser les qualités, donc j'ai dû demander à des gens. C'était il y a 5 ans. Et puis voilà, mon imposteur à moi, c'était ce côté très masque social et refus de se montrer vulnérable. Il y a des gens qui ont du mal à se montrer vulnérable. C'est pas évident. Hein. Ça sert, en fait. Mais quand on a grandi dans ce côté ne pas se montrer vulnérable, le jour où il faut se montrer vulnérable, ou en tout cas, c'est très, très violent. Surtout quand on ne contrôle pas le fait de se montrer vulnérable. C'est pas évident. Comment on fait quand on est un imposteur d'un mix génie naturel et solitaire? Déjà, sur ce côté enfance, oui, il y avait ce côté doué à l'école et socialement. Voilà, ça se passait bien. Ça se passe bien. Oh, ça se passe bien pour Joanne, oui. Et du coup, au final, ben, je ne savais pas, moi, quand ça ne se passait pas bien. Je m'adaptais pour que tout se passe bien, parce qu'on me disait que tout se passait bien. Ben, ça va. Je me débrouillais, du coup, quand ça va moins bien, parce qu'on me dit que ça va et qu'on ne vient pas me voir pour me dire il y aurait des choses dont tu voudrais parler. Ben non, ça va. Et donc, en fait, on ne se rend pas compte, mais on se met à se débrouiller soi-même sur les sujets qui nous grattent un peu. Où ça se passe moins bien, tiens, bah ça je vais le vivre un peu toute seule, ce passage difficile, parce qu'on vient pas forcément me demander. Donc on se commence à se construire gentiment ce masque, de ne pas montrer ses vulnérabilités. Dans le monde professionnel, j'ai toujours eu la chance, enfin j'ai eu la chance et je suis allée le chercher, c'est un mix des deux, ce côté grande liberté. Voilà, moi il fallait que je crée des postes, je crée. Donc je créais, j'arrivais, il faudrait un bout de ci, un bout de ça, un bout de ça pour que ça marche. Donc je vais créer un poste, je n'ai jamais eu de vrai nom de poste. Alors pour mes collègues, si je leur demande mon poste, c'est quoi mon poste aujourd'hui ? Coach agile, eh ben, je ne fais pas que ça, mais j'en fais une part. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai un collègue, le jour il me dit « ton poste c'est d'être Joanne ». Ah, ça j'aime bien. Mais du coup à côté, quand on a un poste pas compris, on se sent incompris, en fait. Et voilà, il y a ce côté un peu décalage. Moi, j'ai toujours eu peur d'être incomprise. Et en même temps, dans mon côté solitaire, je ne montrais pas non plus aux gens comment me comprendre. Donc forcément, c'est compliqué. Et puis, une peur d'être manipulée aussi parce que comme ça se passe bien, les gens, ils viennent, ils prennent. Ils disent « toi, t'as les compétences pour le faire, viens le faire avec moi et tout. » Et puis, ils tirent. Et toi, tu dis « ouais, vas-y, viens, je te donne. » Et puis, un jour, on nous draine tellement l'énergie que qu'on est cuit. Ils font « oh mince, j'ai cassé Joanne. » Et donc, savoir se mettre des limites dans ces cas-là est super, super important. Et puis cette peur d'être exposé, comme on dit, en plus tu donnes des conférences, tu dois tout savoir et tout. Je vais te dire des choses. Alors on a peur au final, on nous dit tellement qu'on sait des choses que le jour où on ne sait pas, ça fait bizarre aux gens aussi. Donc nous, ça nourrit notre imposteur. Et puis dans la vie personnelle, il y a un moment donné, se mettre des masques et tout, ça amène cette dimension de une fois qu'on se rencontre, le côté génie naturel, pardon. Ah le premier échec personnel que j'ai connu, j'avais 27 ans, oh, la tarte, ça pique, hein. C'est qu'on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt, on n'a pas trop connu. Donc c'est très compliqué. Et du coup, d'un coup, mon estime de soi, elle a fait pouf, elle n'a pas passé par la case départ. Elle s'est vautrée totale et c'est hyper violent. Qu'est-ce que j'ai fait, du coup, pour accepter mon imposteur, pour vivre avec, pour être là aujourd'hui devant vous? C'est pas super évident. En plus, je parle de mes vulnérabilités. On a bien vu que tout à l'heure, c'était pas mon premier truc préféré. Comment je suis arrivée là aujourd'hui? Déjà, je suis partie à ma découverte. Je disais tout à l'heure, c'est pas évident de se regarder dans un miroir. Ouais, c'est pas. Il y a des gens qui ont essayé ça, de partir à leur découverte. Ouais, c'est agréable au début. Ouais, hein. Non. Non, ça va. Le mode de selfie, non. Alors pour ça, moi, je me suis fait accompagner, par exemple. C'est plus facile. Se faire accompagner. Partir à ma découverte, c'était aussi passer le test WISE, si ça parle à certains ou certaines, pour amener du fait aussi sur ce que je pouvais vivre, pour en reparler s'il y a des gens qui veulent venir m'en reparler à la fin. Ce côté, accepter mes vulnérabilités. J'en ris pas encore complètement, mais bon. Comprendre mes forces aussi, savoir c'est quoi mes forces, sur quoi je peux m'appuyer, parce que l'imposteur, il a du mal à se trouver des forces. Trouvez-vous vos forces, demandez aux gens quelles sont mes forces. Demandez à vos potes pourquoi t'es mon pote. Demandez à vos collègues qu'est-ce qui fait que tu peux te reposer sur moi. C'est pas de l'ego, ça, hein. C'est aider à se comprendre. C'est bien d'avoir de l'ego, hein. Ça préserve. Hein. Souvent, on entend... Moi, j'entends deux choses qui m'hérissent le poil. Genre, vas-y, lui, il parle tout le temps, lui, bourré d'ego. Alors, ça peut être vrai. Hein. Mais n'empêche que c'est bien de parler de soi aussi, de temps en temps. Et la deuxième chose, c'est les gens qui sont « Non, mais moi, j'ai aucun ego. Moi, j'ai pas de problème avec ça, j'ai aucun ego. » Dans ma tête, ça fait dommage pour toi. Ça doit être dur, parfois. Confère le super-héros, le 3, tout à l'heure. J'ai appris le goût de l'effort. Parce que, comme de mon enfant, j'ai pas trop fait d'effort. Le jour où faut en faire... J'ai essayé d'apprendre le chinois, il fallait faire des efforts. Non, je ne vais pas apprendre le chinois. Je sais juste dire que je ne suis pas chinoise en chinois. Ça aide. Hein. Et puis, je me suis mise à écrire. Écrire, c'est un peu comme un miroir. Écrire, c'est ancrer les mots. Et c'est pas évident quand on veut pas voir ses vulnérabilités. Se mettre à écrire et du coup à relire. À se relire. Parfois, on se dit « Oula, je sais pas ce que j'avais pris. » Une vitale menthe, voilà, si tu te poses la question. C'est pas évident d'écrire, mais qu'est-ce que ça fait du bien de se poser les choses. Je parlais de l'étape d'observation tout à l'heure. J'observe mes comportements, j'observe ce que je me suis dit. Je relis 2 jours plus tard, mais d'où je me suis dit ça ? Wow, qu'est-ce que je suis dure avec moi-même ! Oh, je me suis mis à lire et à m'exercer. Alors notamment, je ne vais pas vous parler des 4 accords Toltec. Ça doit parler à certains parce qu'on en parle beaucoup, mais rien que cette notion de parole impeccable avec soi-même. C'est quand la dernière fois que vous avez dit « Oh, le con » ou « la conne » à propos de vous ? Hier ? Il y a des gens aujourd'hui ? Ouais ? Il y a 1 heure ? Ouais, il y en a encore un. C'est quand la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un « Oh, t'es con !» Mais en le pensant, hein, pas juste « Oh, t'es con !» Bah ouais, ça fait longtemps. Hein. Pourquoi vous ne faites pas la même chose avec vous ? Bah ouais. C'est ballot. J'ai commencé à respirer aussi. Parce que quand on est dans son imposteur, tout le temps à se trouver des stratagèmes, des trucs, à se pourrir la tête, à pas dormir à 3h du mat, à se rappeler d'une soirée la veille, des conneries qu'on a pu dire à ses potes, tout ça, ben on respire plus. On prend de l'air et puis on replonge en fait. Donc je me suis remise à respirer. C'est bien de respirer, hein. C'est confort. Oh là là, pas juste prendre des bouffées d'air, mais respirer tranquille. Alors je conseille la méditation. Personnellement, j'essaye, mais je sais pas, on s'entend pas très très bien. Ça marche 1 fois sur 12. J'essaye quand même. Si vous y arrivez, bravo. Et puis l'hatha yoga aussi. On m'a dit donne des exemples de ce que tu fais. Alors je donne. L'hatha yoga, c'est génial. C'est un yoga basé sur la respiration, justement. J'ai libéré ma part d'enfant. Je me suis rendu compte que quand je suis devenue mère, je suis devenue chiante. Oh, j'étais fun avant. Oh là là, oh bah, je me suis rendu compte. Putain. Je suis vraiment devenue chiante. Je ne vais plus à des concerts, je ne vais plus. Bah là, je me suis remis à faire du jeu de rôle. Ouais, bon, maintenant, les potes, ils sont trentenaires quadra, mais ça change de quand j'étais jeune. Je suis retournée voir des concerts de métal. Voilà, là, je suis sur un festival médiéval fantastique. Je suis repartie sur mes racines et ce qui m'animait. Et bien, ça, pour l'imposteur, ça fait du bien, en fait. De se remettre dans ce qu'on aimait quand on était petit, de retrouver cette part d'enfance. Ah, je vous conseille, c'est libérateur. Et puis je me suis dit aussi que faire de mon mieux par rapport à mon degré d'exigence, là c'est toujours lié aux accords Toltec, ben, faire de mon mieux, il y a des jours ça va être en PLS sous ma couette. Ouais, ce sera mon mieux aujourd'hui. Voilà, ça va pas. Donc, Et puis il y a des jours, ben, je kifferais d'être au top. Voilà. Aujourd'hui, là, je suis dans mon mieux, je suis super heureuse avec vous. Et puis ça se trouve, dans 2 jours, je serai en PLS sous ma couette, ben, c'est comme ça. Puis il y a des jours, je suis juste posée tranquillement, sans motivation. Il y a des jours, j'ai envie de faire plein de trucs. Bon, bah. Ben, on accueille en fait, ça sert à rien de se forcer à être bien. C'est toujours ce bon pote, t'es déprimé, bon allez, coup de pied au cul et puis tu sors du lit, hein. Non, si t'es pas bien, tu restes dans le lit, c'est ok. Et enfin, ce côté s'inspirer, j'avais beaucoup de mal, moi, dans mon solitaire, à cette notion d'être inspiré. Au début, mes confs, quand je les préparais, je les montrais pas, parce que j'avais peur qu'on me challenge. J'aime pas qu'on me challenge, qu'on me dise que je fais un truc. Ah, j'aurais plutôt fait, non. C'est très bien ce que j'ai fait. Non, tu ferais pas. Si, en fait, c'est bien de se faire challenger. Vraiment. Ça permet de faire des confs bon, plutôt sympas. Hein. Je peux être fière de la même. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est important de s'ouvrir au feedback, au retour des gens. De ne pas le prendre pour soi, en fait. Ils ne m'attaquent pas, les gens. Ils me disent juste que ça pourrait être mieux. Ok, cool. C'est pas moi qui vais me dire ça pourrait être mieux dans ma tête. Non, c'est factuel. C'est ça, tu vois, moi, de mon prise, les petits cercles tout à l'heure, de mon petit cercle qui touche pas le tien, je le ferai comme ça. Ah, ok. Ah, t'es pas en train de m'attaquer ? T'es pas en train de dire que je sais pas des choses en mode négatif ? Oh. Pour conclure, ouais. 3 conseils. Déjà, soyez votre propre héros. Ça sert à rien d'aller se comparer à d'autres. Ça sert à rien de se dire, ah ouais, mais attends. Tel collègue, il arrive à gérer tout ça, ou alors moi perso, je suis maman solo, les mamans solo qui sont là, j'arrive à tout enchaîner, c'est super. En plus, je suis maquillée le matin, je sais pas comment ils font. J'ai arrêté de me comparer parce que voilà. mais par contre, il y a des soirs, je me dis, ouais, j'ai fait tout ça dans ma journée alors que j'ai mon gamin géré et tout, cool. Voilà, je suis mon propre héros. Ça, c'est quand même plus sympa. Et que l'imposteur, encore une fois, lui démonter la gueule. Confère pas mes mots, hein, ceux du questionnaire. C'est dommage parce que c'est ça en fait. Parce qu'au fond, ça permet de rester humble. quand ça se passe bien avec son imposteur, il nous permet une certaine humilité aussi. Il est là, encore une fois, en préservation, donc il a raison d'exister. Cette citation que j'aime beaucoup de Jung, c'est donc dans ce côté propre héros, c'est « qui regarde à l'extérieur rêve et qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Si je me compare à d'autres, par exemple, je vais voir Carvin en con, je fais « ah, il est quand même bon ce... » Ah, t'es con, tu vois, regarde. Imposteur. Bah, si je me compare à Carvin, bah, je vais pas donner beaucoup de conf, quoi. Je vais être là, je vais rêver, je vais faire « ouais, un jour, je ferai comme lui quand je serai grande ». David Lézé aussi, qui est parti voir un autre collègue. Ouah, quand je serai grande, je ferai comme lui. Alors qu'en fait, c'est en regardant l'intérieur de moi, j'ai fait non, mais en fait, je vais faire des confs. Déjà, je vais kiffer moi. Et puis, si les gens ils aiment bien, bah, c'est cool. Mais en tout cas, j'ai envie de le faire. Et si quelqu'un le fait mieux ou différemment, bah, tant pis. Je le ferai à ma façon. Sinon, je ferai rien. Donc voilà, je vous invite à vraiment vous éveiller plutôt qu'à rêver. Et enfin, juste, bah, cessez de survivre, mettez-vous à vivre. Ça fait un peu punchline, vous savez, Instagram, là, sur un fond, sur un coucher de soleil, une meuf qui fait du yoga. Vous les voyez, celle-là. Mais cette phrase, pour moi, c'est un motto. Ce côté, juste remonter à la surface pour prendre de l'air, pour replonger, c'est pas une vie. Et c'est de la survie, et c'est ballot, parce qu'en soi, on n'a qu'une vie. Donc voilà, juste... vivez déjà et arrêtez de gober de l'air comme ça et foutez-vous la paix aussi. Quelques références pour aller plus loin, il y en a plein. L'échelle de clan, si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer si vous avez envie de vous tester, si vous voulez qu'on échange. Voilà, contactez-moi, faites-moi des petits messages et puis je vous l'enverrai. Je vous remercie beaucoup de votre attention.